un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une façon de travailler peu connue du grand public que pratiquent pourtant de nombreux éleveurs conventionnels et qui s'appelle l'intégration. Une façon d'être pieds et poings liés par un contrat avec un groupe agroalimentaire qui intervient à toutes les étapes de leur production. Le groupe vend aux éleveurs l'aliment pour le bétail, les pesticides, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les différents produits apportés aux terres et aux cultures qui vont du matériel agricole aux honoraires du vétérinaire. Le groupe encadre également les pratiques d'élevage. En gros, il dit aux éleveurs comment ils doivent faire et à la fin, il achète leur production à un tarif non négociable. Or, les agriculteurs intégrés ne communiquent pas ou très rarement sur leurs conditions de travail, sur cette condition d'intégrer, pour ne pas dire d'enchaîner. On devine aisément que cette façon d'être lié ne les encourage pas à la confidence ni à se plaindre de leurs dites conditions. Aujourd'hui pourtant, Sophie, 30 ans, et Christophe, 50, ont décidé de se livrer à Inès Leroux, bien connue pour ses enquêtes rigoureuses sur l'agroalimentaire en Bretagne et ailleurs. On écoute tout de suite leur expérience, un récit unique pour les pieds sur terre.
Alors, je m'appelle Sophie Cardois-Bélanger, donc j'habite du côté de Saint-Sauveur-de-Flé, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Donc on est en ferme en GAEC. On a une famille de deux enfants, on est deux associés. Donc on a une exploitation bovine avec 60 vaches allaitantes et 400 veaux de boucherie sur 75 hectares, avec mon mari. Et donc moi j'ai mes diplômes dans le cheval, donc mon premier projet était de monter un centre de remise en forme équin. Donc ce qui veut dire que ça nécessitait beaucoup d'investissement. Tout ce qui est balnéo, solarium, pour les chevaux, ça coûte cher. Donc les banquiers m'ont tout de suite dit non. Donc j'ai décidé de plus me rapprocher des vaches, parce que mon mari était dans les vaches. Et donc mon projet, c'était 60 vaches dehors, uniquement dehors. Et les banques m'ont dit non. Donc là, ils me disent, faut faire un atelier hors sol. Donc le hors sol, ça comprend soit de la volaille, soit du porc, soit du veau. Donc moi, j'aime pas la volaille, j'aime pas le porc. On a été chercher des renseignements auprès des intégrateurs de veaux, parce qu'on ne connaissait rien aux veaux.
Sophie a 30 ans environ. C'est elle qui me contacte sur Internet pour raconter, sans filtre, son expérience d'agricultrice sous contrat avec une multinationale de l'agroalimentaire. Lors de notre rencontre, elle est venue avec un énorme dossier. Toutes les pièces prouvant la réalité de son histoire. En 2019, une banque agricole a donc accepté son projet de vache limousine, plein air, à condition qu'elle monte, en plus, un élevage a priori plus rémunérateur, hors sol. Elle est alors orientée vers Vendry, un groupe hollandais possédant des élevages dans l'ouest de la France, pour l'accompagner dans ce projet de 400 veaux sur sol béton, en bâtiment.
Le hors sol, ils ne sortent vraiment pas. Ils ont juste peut-être le rayon de soleil par la fenêtre. Puis après, on est sensible ou on est moins sensible, mais enfin, moi je suis sensible et du coup on ressent le mal-être. Les veaux de boucherie, on les prend dans l'élevage, déjà on les sépare de leur mère et ensuite on les met dans un endroit qu'ils connaissent pas. Donc moi j'étais pas pour, mais je voulais pas non plus retourner dans le monde de salariat, donc j'ai fait confiance à la banque et aux intégrateurs Vendry, qui nous a vendu du rêve. Donc en faisant visiter des éleveurs de chez eux, où tout allait bien. Le bâtiment qu'on a construit pour les veaux, de 400 places, nous a coûté 680 000 euros. On avait une mensualité à peu près de 6 000 euros par mois. Et quand on nous a présenté des élevages, on nous a dit que cette activité-là, c'était 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc donner le lait et à mettre la fibre, donc les alimenter en gros, et surveiller. Sauf que la réalité est loin d'être... c'est pas 1h30, c'est beaucoup plus... parce qu'on court partout et on ne se rend pas compte du travail que c'est en fait en veau. Donc ce qu'il faut compter, c'est quand les veaux arrivent donc dans le bâtiment, il faut les installer. Ils ne font pas ça tout seuls. Donc il y a 400 veaux à installer dans les petites cases. Donc en fait, ils sont individuels. Et en sachant que 400 veaux, si on n'est que deux à les installer, on met une durée illimitée.
Vous employez de la main-d'œuvre ?
Eh ben, bénévolement, mes parents, des amis. Mais ça, c'est pas compté. Donc non, c'est un chantier sans nom. Donc après, il faut les réhabituer. Parce qu'en fait, on leur demande de boire dans un seau. Quand ils veulent téter, ben, ils vont chercher la mamelle en haut. Donc il faut leur apprendre à aller chercher le seau en bas. Il faut bien aussi comprendre que le veau, il a l'instinct de succion. Et en fait, la succion fait que, du coup, il y a le sphincter du lait qui s'ouvre en succion. Donc déjà, il a la tête en l'air, déjà, normalement, la mamelle. Il tète. Donc en fait, il y a le sphincter pour laisser passer le lait qui va dans un estomac fait pour digérer le lait. Mais comme nous, dans le bâtiment industriel, on leur demande d'aller chercher déjà en bas, au seau, mais sans tétine, le sphincter ne s'ouvre pas. Et du coup, ça déroute dans un autre estomac, qui n'est pas fait pour, ce qui fait gonfler les veaux. Et après, on se retrouve avec du lait qui stagne dans l'estomac. Donc voilà, le veau est malade, il n'est pas bien. Donc en fait, nous, en tant qu'éleveurs, on a, pas l'obligation, mais bon, fortement conseillé de le sonder, faire sortir le lait qui a fait fausse route, en fait. Et voilà. Donc quand il y en a un, ça va. Quand il y en a deux, voilà. Mais quand il y en a... Voilà, vous imaginez un peu la suite.
400.
Il n'y en a jamais 400 qui gonflent, mais voilà, c'est... Et puis, c'est pas... Déjà, pour l'éleveur, c'est pas agréable à le faire. Et puis, au niveau du bien-être animal, c'est pas terrible. Et ensuite, on a trois prises de sang par lot. Une en début de lot, une en milieu de lot et une en fin de lot pour mesurer le taux d'hémoglobine dans le sang. Parce qu'en fait, la viande de veau doit être blanche, donc il s'assure de ça. La viande rosie, ou devient rouge, s'ils mangent des céréales. Donc ils sont rationnés en fonction des prises de sang. Donc il y a un technicien qui passe toutes les semaines, il peut rajouter du tanin. C'est une espèce de poudre chocolatée, on va dire, et qui a le pouvoir anémiant, entre guillemets, pour justement que les veaux grossissent, mais que la viande reste blanche. Mais en même temps, faut pas que le veau soit trop anémie, sinon il est malade. Il joue là-dessus. Donc ça, on ne nous avait pas dit ça non plus au départ. Alors, comme on est en intégration, donc ça veut dire que nous, on fournit notre bâtiment, donc on le fait construire, on fournit notre technicité, et ensuite, les veaux viennent chez nous un peu comme une prestation de service. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à nous, l'alimentation n'est pas à nous, les frais vétos sont payés par l'intégrateur. On a juste à les engraisser, en fait.
À les engraisser?
Oui. Voilà.
Mais ils viennent d'où, ces veaux?
Un peu partout, en fait. C'est l'intégrateur qui achète des veaux partout en France et un peu à l'étranger. Et ensuite, il les retrie dans leur centre d'allemand pour pouvoir les dispatcher entre plusieurs éleveurs. Le lait, en fait, il nous est livré sur l'exploitation par un camion citerne provenant de Hollande. En fait, nous, on a deux gros silos devant le bâtiment où est stockée la poudre de lait. Il y a un plan d'alimentation qu'on doit, entre guillemets, suivre à la lettre, qui est plus ou moins modifié par le technicien qui passe toutes les semaines. La réalité de la chose, c'est que c'est l'éleveur qui voit les veaux tous les jours. C'est pas le technicien qui passe une fois par semaine. Mais voilà. On doit se plier aux règles du technicien et de l'intégrateur. Voilà.
L'engraissement des veaux, c'est sur quelle durée ?
6 mois. Comme c'est l'intégrateur qui nous met les veaux chez nous, c'est l'intégrateur qui reprend les veaux et qui les emmène dans leur propre abattoir. Enfin voilà, on est juste là pour les engraisser et point barre, quoi. On est des petits soldats, en fait, on n'a pas notre mot à dire, en fait. Donc en fait, on se retrouve dans un système qui n'est pas rentable du tout, pas pour l'éleveur. Sur papier, tout est beau, parce qu'en fait, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut.
La rémunération nette perçue par Sophie, une fois toutes les charges payées comme le chauffage ou le nettoyage du bâtiment hors sol, est inférieure à 600 euros par mois. Pour compléter ses revenus, elle compte sur une plus-value que lui a promise son intégrateur en fonction des performances qu'elle réalisera.
On peut avoir, alors nous on nous avait dit de 0 à 25 euros par veau en plus. Le premier lot a été pas mauvais, mais je crois qu'on a été à moins 16 euros donc par veau. Donc ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est la mise en main, c'est la mise en place. Le deuxième lot, on arrive à faire quarantaine d'euros, je crois, par veau, toujours. Et le troisième lot, on arrive à faire plus 86 euros. Donc c'est... voilà.
C'est un très bon résultat.
Oui. Voilà. En fait, on était à 17 euros par veau sur les trois premiers lots. Donc ça faisait... Là, il fallait faire 17 euros par 400, par 3. Ça faisait un billet de 21 000 à peu près. Et comme, du coup, quand on a signé avec notre intégrateur Vendry, la plus-value devait tomber au troisième lot. Mais il y a une loi en 2021 qui stipulait que la plus-value tomberait plus au troisième lot, mais au quatrième lot, en fait. Donc nous, on a bien insisté en disant que, en tant que jeune installé, voilà, nous, on a signé troisième lot, voilà. Donc ils n'ont rien voulu savoir. Donc on a été obligés, encore une fois, fermer notre bouche et voilà. Et le quatrième lot, ils nous ont livré des veaux merdiques. De qualité très, très, très minable.
Comment vous le savez ?
La descente du camion, déjà, qui était couché, qui ne voulait pas boire, qui ne voulait pas manger, enfin voilà. Donc ils sont rentrés en janvier 2022. Et ensuite, c'était la dégringolade. Tous les jours, il y avait un ou plusieurs morts sur le sol, quoi. Donc à l'arrivée, on arrive à 72 veaux morts. En tant qu'éleveur, on n'aime pas ça. Et là, on n'avait plus que nos yeux pour pleurer, quoi. On fait un résultat moins 40 ou 50 euros par veau, toujours. Et en fait, ça nous refait tomber à zéro. Donc on n'a rien.
Et du coup, vous n'avez pas touché votre plus-value ?
Non.
La plus-value que vous aviez gagnée avec le troisième lot, 21 000 euros qu'on vous devait.
Oui. Donc à la suite de ça, en fait, nous, on a été dégoûtés. Et du coup, donc une fois que les veaux, nos veaux du quatrième lot sont partis, on a reçu un joli petit courrier de la part de Vendry.
En juin 2022, Sophie décide de dénoncer le fonctionnement de son intégrateur à travers la presse locale. Quelques semaines plus tard, le 5 août, elle reçoit une lettre de licenciement de celui-ci. Il écrit « Nous suspectons fortement que vous n'avez pas suffisamment nourri les veaux par rapport à leurs besoins physiologiques, notamment en ne donnant pas les proportions d'aliments nécessaires et en oubliant à de nombreuses reprises de les nourrir. Les résultats de votre dernier lot sont sans appel et témoignent d'eux-mêmes de vos manquements. La mortalité de ce lot est anormalement très élevée. Vous n'avez non seulement pas respecté vos obligations fondamentales au titre du contrat qui nous lie, mais vous n'avez pas non plus respecté la réglementation française en matière de protection et de bien-être animal. » Sophie et son mari se disent que la véritable raison de leur licenciement, c'est d'avoir rendu publiques les pratiques de leur intégrateur. Ils sont abasourdis que celui-ci les accuse de maltraitance animale pour justifier la rupture de contrat.
Mais c'est pour ça que moi je dis que l'intégrateur, comme les coopératives, ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs.
Sophie et son mari auraient pu chercher un autre intégrateur de veau, mais ils préfèrent arrêter leur activité.
Je suis en burn-out depuis juillet 2021. J'ai découvert l'envers du décor et ça m'a descendu aux enfers. Depuis début 2020, j'ai été voir mon médecin et il m'a dit « là, faudrait s'arrêter ». Moi, j'ai jamais voulu, en fait, parce que quand on s'installe en tant que jeune, on a la responsabilité de porter le fameux 1 million qui a été mis sur la table pour notre projet. On ne peut pas lâcher maintenant. Et en fait, à un moment donné, le médecin il m'a dit « là, je vous arrête, vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, vous savez comment ça va finir ». Donc nous, on n'a plus envie de continuer de travailler pour tous ces gens qui nous entourent et qui nous saignent le matin au soir. Pour l'instant, l'activité ne reprendra pas. On est en redressement depuis le 11 octobre 2022. Donc je pense qu'on va se diriger tranquillement vers une liquidation. Et on verra ce que la suite nous réserve. On a découvert tellement de choses qui dépassent l'entendement, je pense, que la population ne soupçonnerait même pas, mais quand on a vu ça, on se dit on est en train d'empoisonner la population, parce que mon mari a piqué des veaux matin et soir, pendant tout le long de l'engraissement. C'est le vétérinaire qui nous dépose des traitements à l'élevage que l'éleveur doit appliquer. Ils ont eu des traitements tout le long de l'engraissement. Donc, voilà, c'est...
6 mois.
6 mois, oui. Donc, faut pas être né de Saint-Cyr pour se poser des questions où est-ce qu'ils sont les antibiotiques, quoi. Voilà.
C'est des photos que vous avez prises ?
Oui. Donc, il y a du vécoxin. Donc ça, c'est tout ce qui est diarrhée. Ultra B, ça, c'est pour tout ce qui est lésions, par exemple, ulcères. Penistastrep, c'est tout ce qui est, je crois, articulaire. Cofafer, c'est pour les recharges de fer. Spasmisole, ça, c'est quand le veau est en colique, par exemple. Penistastrep, c'est tout ce qui est pulmonaire. Et le chlorphénicol, c'est un large spectre qui est plutôt respiratoire. Axilin, tout ce qui est lié à la rumination, digestion. Donc l'hydraval, c'est une poudre qu'on met dans l'eau et qu'on donne quand ils descendent du camion.
Mais là, c'est infini la liste de médicaments que vous avez.
Oui, oui. Bah là, je vous ai donné tous les traitements qu'on fait individuellement. Et après, il y a tous les traitements qu'on fait en collectif. Donc c'est un traitement qui font partie du protocole dès qu'ils arrivent, en fait. Donc on donne de l'aspirine, du Géovit-C, du Ronaxan, du Néomet, du Draxin, du Tilmovet, Tilmopro. Dans certains, c'est des compléments alimentaires et pour d'autres, c'est des produits vétérinaires, quoi, antibiotiques. Après, il y a le traitement collectif qu'on passe dans le lait. Et après, il y a les traitements individuels. Et les traitements individuels, on peut rester jusqu'à 22 heures dans le bâtiment à faire des injections, vous, quoi. Voilà. Et le lendemain, on recommence à 6 heures. Il y a des choses qui passent pas, en fait. Le fait de piquer tous les 4 matins, moi, c'était pas mon travail. Et on comprend qu'en fait, les animaux sont juste un peu comme les éleveurs, juste des pions sur lesquels on a misé plus ou moins d'argent. L'animal, c'est une machine pour eux. Puis comme j'ai vu ce qui se passait dans leur sol, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est plus possible. Tant que pour l'éleveur que pour l'animal, en fait.
Qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir ?
Sortir du monde agricole mafieux.
France Culture. Les pieds sur terre.
Donc moi, c'est Christophe Thomas. J'habite à Moustiru. Je suis éleveur de vaches laitières avec mon fils Samuel, qui est aide familiale avec moi. Moi, ça fait 30 ans que je suis installé. Mon lait est principalement livré à la coopérative Eureden, la plus puissante, dans les Côtes d'Armor, entre autres. On est plus ou moins en système intégré, puisqu'on a l'obligation d'acheter nos intrants avec notre coopérative. Les pesticides, les engrais, les semences... Et ils prélèvent sur la paye de lait pour se faire payer de leur intrant. Ça, ils sont sûrs de récupérer leur argent. Ils nous payent des clopinettes, on va dire, entre parenthèses. C'est pas possible de négocier le prix. On connaît jamais notre prix d'avance. Le prix est fixé au mois le mois. C'est-à-dire, pour le lait, là, on est au mois d'avril. On connaît le prix du lait du mois d'avril, mais on connaît pas celui du mois de mai. On le connaîtra au dernier moment. Et on sera obligé de faire avec ce qu'on nous donne.
En 2018, Christophe est victime d'un sinistre sur son exploitation.
Je m'en suis aperçu sur mes vaches laitières, parce qu'elles avaient des bouses anormales. Il y avait du sang au niveau des bouses et du sang au niveau des narines des vaches laitières. Et donc elles avaient des petites hémorragies. Et j'ai dit, là, il y a un problème. Le lait avait chuté aussi sur une journée, donc j'ai réagi assez vite. Et je suis allé voir dans le silo, et là, je me suis aperçu que le granulé n'était pas normal. J'ai vu qu'il était très vert. Et les vaches, elles avaient les bouses vertes également. Donc j'ai appelé mon technicien aliment. Et il m'a dit, je vais vérifier, je vais regarder qu'est-ce qu'il y avait dans le camion. Et là, il m'a rappelé une heure après. Il me dit, Christophe, c'est probable que ce soit de l'aliment lapin.
Donc je préfère qu'on fasse une reprise dans la soirée. Donc je vais m'organiser avec l'usine donc pour qu'on reprenne l'aliment. Parce que, comme tu dis, c'est un granulé vert. Donc ça m'a tout de suite fait penser à l'aliment lapin.
Et donc là, j'ai dit, hop là, aliment lapin. Pour moi, aliment lapin égale antibiotique. Et j'ai fait un prélèvement et que j'ai envoyé au labo à Guingamp, voilà, chez Trigobio. Et là, deux, trois jours après, ils m'ont signalé qu'il y avait bien des antibiotiques dedans, mais ils ne savaient pas lesquels encore. Donc là, après, j'ai fait appel à un huissier qui est venu prendre un échantillon, qui l'a envoyé, lui, au labo. Et on a demandé des recherches antibiotiques plus précises. Donc là, notre aliment est parti à la BOCEA à Saint-Brieuc. Et là, ils ont découvert qu'il y avait 6 antibiotiques et des antibiotiques interdits pour les vaches laitières.
Christophe n'a pas dit à sa coopérative Triscalia, devenue Eureden en 2019, qu'il menait ses propres analyses. Un cadre de la société lui laisse alors un message vocal.
Ouais, Christophe, on vient juste d'avoir les résultats là, de la BOCEA. Donc il n'y a absolument rien dans l'aliment certifié, donc voilà, tu auras le doute de l'analyse. On a été certainement au-delà de toutes les sécurités qu'on pourrait prendre, parce qu'on est aussi responsable et on est dans la filière laitière, donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Là, je te confirme qu'il n'y avait rien dans l'aliment. Donc moi, je suis très heureux ce soir, tu vois.
Et là, je dis, écoute Pascal, moi j'ai trouvé 6 antibiotiques dans l'aliment. Donc il n'y a pas rien dedans, il y a quelque chose dedans. Et je dis, c'est pas bon ce qu'il y a dedans en plus. Et il me répond, ah, mais je te rappelle demain. Quelques mois après, quand ils ont vu que j'insistais et que j'avais des preuves, ils ont refait une analyse, ils trouvaient 3 antibiotiques, mais ce n'étaient pas les mêmes que moi. Et donc ils ont accepté de dire qu'il y avait 3 antibiotiques, mais jamais 6, quoi, on va dire. Voilà. Moi, j'ai perdu 25 vaches environ, d'hémorragie, et sont parties à l'écarissage, voilà. Et une 30aine d'avortements sur les mères aussi, qui étaient en fin de gestation, elles ont avorté. Donc, il a fallu remplacer une grosse partie du troupeau. Je vais dire 90 000 euros environ de pertes. Et encore, je compte peut-être pas tout, hein, mais parce que je compte pas le préjudice moral de la personne. Qui est peut-être plus important encore que le préjudice financier. J'ai pas eu d'indemnisation de personne. Hein. Les assurants, il faut savoir que comme on était tous les deux assurés à Groupama, Triscalia et moi, le recours était difficile, on va dire.
Donc votre assurance, en fait, c'est aussi l'assurance de votre coopérative.
Ouais, c'était un peu le problème. Il aurait pas fallu que moi je sois assuré Groupama au moment de l'incident. Mais le dossier a été classé sans suite, on va dire. Donc...
Vous avez fait un procès contre votre coopérative ?
On a fait un procès depuis 2018, qui est toujours en cours actuellement. Ça fait 5 ans aujourd'hui que nous sommes en litige avec la coopérative. Et aujourd'hui, c'est au tribunal de Brest, notre affaire. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'on aura des nouvelles assez rapidement. À mon plus gros souhait, ce serait d'être indépendant, on va dire. Que je choisisse où va mon lait, avec qui, et s'il peut rester en local, moi, c'est ce que je recherche, quoi. Et on a trop d'emprunts et trop de dettes. On peut pas, du jour au lendemain, arrêter avec sa coopérative. On n'a pas le choix. On est pieds et mains liés avec eux. On a des comptes à rendre à nos banques et tout ça. Du coup, il nous faut un certain chiffre d'affaires tous les mois pour pouvoir faire face à nos dettes.
Vous avez un emprunt de combien ?
Dans les 600 000 euros environ. 6 000 euros par mois. Au tout départ, quand c'est arrivé l'incident avec ma coopérative, j'ai pensé que c'était fini pour l'exploitation parce que j'allais pas pouvoir tenir. Déjà tenir moralement, ça a été très dur. Et après, c'était financièrement, c'était difficile également. J'avais peur de couler, quoi. Et j'ai tenu grâce à ma famille et à mes amis aussi. Et j'ai songé au pire, ouais. Ouais. Et je voyais qu'une issue, et c'était celle-là, quoi. Le suicide ou... je sais pas trop. J'avais peur de faire faillite et que l'exploitation familiale disparaisse. Pour moi, c'était une issue pour sortir de la tête de l'eau aussi et de faire de la vente directe. Donc, pour faire face à... et changer de système, on a décidé de faire de la transformation aujourd'hui, quoi. On vend 10% de notre production en vente directe environ. On fait du fromage, on fait de la tomme et de la raclette et fromage frais aux plantes aromatiques, du riz au lait et du fer. Et donc je fais toute la transformation de A à Z. Moi, je suis fier de voir mes produits une fois élaborés. Et donc, mon but, c'est d'en faire davantage et de moins être indépendant des coopératives, on va dire, qu'on prenne notre envol. Et puis, voilà.
Et eux, ils ont accepté de vous garder alors que vous leur faites un procès?
Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de bruit et ça ternirait leur image encore et ça ne serait pas bon pour eux. Je pense que s'ils avaient pu me virer, ils auraient fait déjà depuis longtemps.
Et la coopérative, elle le prend comment? Que vous lui envoyiez pas tout votre lait et que vous en transformiez 10%?
On a le droit de le faire, donc il n'y a rien qui nous l'interdit. Et je sollicite les gens à le faire. On a de l'or entre les mains, mais on ne sait pas le travailler. Moi, je vends 30 000 euros la tonne de fromage, pendant que je vends 4 500 euros à ma coopérative, ma tonne de lait, quoi. Ça veut dire que si je fais 3 tonnes de fromage dans mon année, j'ai 90 000 euros de recettes et il me restera peut-être 70 000 de résultats. Voilà.
Alors qu'avec la coopérative, quand vous avez 90 000 euros de recettes, il vous reste combien de résultats?
Il ne nous reste rien. Non, tout part. Et donc la valeur ajoutée, on la donne à la coopérative, la valeur ajoutée. Après, c'est pas si simple que ça. C'est un sacrifice aussi de transformer, puisque c'est beaucoup plus de travail. Mais moi, j'ai le plaisir de voir mon produit fini, quoi.
C'était Modèle intégré, éleveur enchaîné, un reportage d'Inès Leroux réalisé par Clémence Gros. Je précise pour nos auditeurs que l'intégrateur Sobeval Vendry, pour lequel a travaillé Sophie Cardois, a été sollicité par nos soins et ne souhaite pas communiquer. Idem pour la coopérative Triskalia Eureden, pour laquelle travaille Christophe Thomas, qui ne souhaite pas communiquer au motif qu'une procédure judiciaire est en cours. Enfin, l'assureur Groupama, quant à lui, explique ne pas avoir indemnisé Christophe Thomas car le lien de causalité entre l'ingestion d'aliments pour lapins et la mortalité de ses vaches n'a pas été démontré. Merci à eux deux, à Sophie Cardois et à Christophe Thomas, ainsi qu'à Alice Sternberg. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire, et cette émission a été mixée par Pierre Henry.
Pourtant c'est la même que moi. Je suis le frère d'une autre rive et je flotte à la dérive. Je te rejoindrai, ma fille, amie. Tu t'es